Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Point de neuf, docteur.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Point de neuf, docteur.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors, c'est samedi. Il est midi 10 et la clinique de nos trois célèbres docteurs est en effervescence. Il est question de devoir. Alors, la simple mouche qui voltige de salle d'opération en salle de conférence se pose la question : quel sens donner à ce mot devoir ? Faire son devoir ? Agir par devoir ? Doit-on disséquer avec Mabuse, House et Jekyll cette obligation morale ? En homme de devoir, nos trois docteurs vont se faire une obligation de nous en parler. À moins qu'ils ne considèrent ce mot devoir comme un dû. Nous verrons bien ce qu'ils nous ont concocté dans leur laboratoire d'idées en tout genre qui leur servent à préparer les potions du savoir. Pour ma part, petite mouche virevoltante autour d'eux, je dois introduire le sujet chaque semaine. Et je n'ai pas intérêt à dire n'importe quoi sous peine de revoir ressurgir la tapette. Pour m'apprendre le sens du devoir, fût-il radiophonique. La loi, les convenances et même les circonstances nous dictent ce que nous croyons être notre devoir. Je suppose que nos trois experts est-ce-tout vont avoir des convergences, mais aussi, comme chaque semaine, des divergences sur le sujet. Vont-ils remplir leurs devoirs en nous instruisant, comme lors de chacune de ces émissions, avec le sentiment légitime du devoir accompli, ils vont ensuite quitter la clinique satisfaits. Ou alors, ils vont manquer à leurs devoirs en négligeant leurs explications que nous attendons entre 12h10 et 12h30 tous les samedis, avec impatience, mais parfois aussi avec méfiance. En tout cas, c'est sûr que Mabuse ne va pas manquer à son devoir d'être le franc-tireur de cette émission. Il va faire son devoir en premier, ce que ne nous empêchera pas d'écouter aussi les deux autres qui ne vont pas pouvoir se débiner. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Mabuse.
Oui, devoir. Ce qui est frappant quand on analyse ce mot, c'est la relation qu'il entretient avec la morale. Quand on doit faire ou agir, cela est généralement induit par des règles ou des obligations que la socialisation est censée nous avoir inculquées. Autrement dit, le devoir implique une soumission à des règles communes que chacun devrait appliquer. Le décalogue, par exemple, est la codification du comportement que les individus se doivent d'avoir. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, etc., etc. La perversité de ce concept est que la société prétend que cette contrainte permet la liberté. En vous privant d'une partie de votre liberté individuelle, vous êtes censé profiter de la liberté collective. Autrement dit, la liberté du peuple tout entier, comme disait Staline. La meilleure illustration est le devoir de l'écolier, qui est en même temps un travail de vérification du niveau d'apprentissage de l'élève et en même temps une épreuve plus ou moins pénible, sanctionnée par une évaluation de la qualité du contenu. Le devoir est généralement lié au droit, une réciprocité qui gère le lien entre le devoir vis-à-vis du collectif et le droit individuel. Dans une société qui provoque le repli individualiste, le droit prend le pas sur le devoir. Mais une société où l'équilibre se ferait entre le droit et le devoir est-elle nécessairement juste ou moralement acceptable ? Coluche disait que nous sommes tous égaux, surtout certains. Le devoir est donc plus un instrument de contrainte et de soumission. Le droit de vote, par exemple, n'implique pas nécessairement un devoir. Les Européens ont montré que le droit à l'abstention était majoritaire. La véritable transgression serait de remettre en question le devoir que la société nous impose comme symbole de sa propre injustice. Faut-il pour cela réformer le droit et imaginer une vie collective sans présupposés moraux ? D'aucuns s'y sont essayés, sans succès apparemment. Laissons donc la place au rêve et à l'utopie.
Alors, nous avons écouté Mabuse faire son devoir, comme disait la simple petite mouche que je suis. Je me tourne vers le docteur House pour qu'il fasse le sien.
Voilà.
Le verbe devoir implique un préalable. L'existence du verbe recevoir. L'on ne peut devoir que ce que l'on a reçu. Ou une équivalence à ce que l'on a reçu. Le verbe devoir n'est qu'une contrepartie dans un échange. Une obligation à équilibrer les flux d'une balance, symbole de justice et d'équité. Dans l'absolu, pourquoi se dérober à des obligations imposées par la morale, la loi, un règlement, des conventions sociales, si la contrepartie est le mieux vivre ensemble? Cependant, devoir ne saurait être remis en cause à la seule condition que l'individu librement consentant puisse prendre la mesure de ses droits et décider lui-même de ses obligations. La société, malheureusement, a tendance à inverser la règle du jeu. Recevoir implique un préalable, devoir. La balance est alors truquée, le marché tronqué. L'acceptation n'est pas le résultat d'une libre volonté, mais d'une simple nécessité. Alors, le devoir est ailleurs. Mais n'oubliez pas, celui qui est parti de rien pour arriver à moins que rien peut se vanter de ne rien devoir à personne.
Eh oui, on peut partir de loin pour arriver nulle part aussi, hein, c'est possible. Il nous reste maintenant le docteur Jekyll. Ah, le docteur Jekyll, en général, il n'aime pas trop faire ses devoirs. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire sur devoir.
Ah putain, que voilà un mot que j'exècre. Privatif de liberté. En ce sens qu'il s'acoquine avec une quelconque obligation morale. Je hais les obligations. Ces ersatz de civilité pseudo-bourgeoise qui peuvent conduire jusqu'à présenter ses devoirs à quelqu'un, autrement dit, aller le saluer avec quelque déférence. Fichtre. Il est vrai que le temps passant, le mot devoir a eu tendance à s'assouplir, en devenant plutôt une hypothèse, une probabilité. Certes, il faut encore le conjuguer au conditionnel. Dans la série « Je devrais lui présenter mes devoirs ». Oh là, d'accord, je suis redevenu libre. Et c'est l'essentiel. Parce que je ne lui présenterai pas. Nah. Bien sûr, lorsque la révolution industrielle est passée par ici, elle a modifié le sens du mot en lui octroyant l'idée d'exigence. On put alors devenir redevable de quelque chose à quelqu'un, être son débiteur. La valeur du mot se changeait en monnaie sonnante et trébuchante. Alors, si je ne déteste pas que les autres aient des devoirs, surtout envers moi, je ne peux toujours pas me faire à l'idée que je pourrais en avoir vis-à-vis d'autres, quels qu'ils soient. Par contre, très exigeant, ce qui me concerne, il n'est pas rare que je vienne à penser que je me dois de faire ceci ou cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela me sied. Raison pour laquelle j'aime à conclure chaque émission de Proboscopie par « La révolte n'est pas un droit, mais un devoir ». En fait, cette notion de devoir est d'essence juridique. Une fois de plus, elle cherche à te dicter ta conduite. Dans la série, fais pas ci, fais pas ça. Et ça commence dès la prime école, avec les devoirs à faire à la maison. Une véritable punition, présentée comme cela. Devoirs qui sont, bien sûr, sanctionnés par une note, une appréciation, une sentence. Assez bien, peut mieux faire. C'est nul, ça vaut zéro. Et on n'en a pas fini des devoirs. En quittant les bancs de l'école, il suffit de se marier. Et le maire vous prévient que vous avez dorénavant des devoirs envers votre conjoint. Faites des enfants et l'on vous culpabilisera de ne pas vous faire un devoir de les éduquer. Pire, vous devez aide et assistance à vos descendants, mais aussi à vos ascendants. Vie de merde. À savoir, l'homme n'aurait pas que des droits, il aurait aussi des devoirs. Pourquoi pas ? Un sale gosse n'aurait que des devoirs en attendant de vivre du sien. Pourquoi pas ? Pour terminer, il paraît que devoir aurait pour corollaire droit. Là, ça me plaît déjà mieux. Il y aurait comme une priorité entre les deux termes. Ainsi va à propos de la révolte. Elle est un devoir plus qu'un droit. Cela relève ici d'une évidence. L'État ne peut donner au peuple le droit de se révolter. C'est à ce dernier de considérer que c'est, pour lui, un devoir. À tout âge, dès que l'on peut vivre du sien, encore une fois. Bref. J'affirme que je me suis fait un devoir de considérer que j'ai tous les droits, à l'exception peut-être celui de nuire à mon voisin. Peut-être. Quoique, il faudrait pas qu'il me les brise menus.
Bon, le docteur Jekyll nous a fait donc un exposé sur ses devoirs qu'il considère être les siens. Mais ces devoirs posent des problèmes sur vous. Vous savez, quand on est à l'école, les pauvres petits écoliers, les devoirs, on appelle ça des problèmes. Ça commence mal dans la vie, vous ne trouvez pas, pour avoir des problèmes. Alors bon, nous allons lancer le petit débat entre nos docteurs. Ils ont peut-être des problématiques à soulever.
Ben, moi, je crois que ce qui est frappant dans nos trois topos, c'est que nous sommes d'accord. C'est-à-dire le devoir, c'est une contrainte. On est à peu près tous d'accord. Le lien qui existe entre droit et devoir semble évident. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il devrait y avoir une espèce de réciprocité entre les deux termes. C'est-à-dire, des droits devraient permettre justifier, en tout cas, des devoirs. Ce qui est assez symptomatique, c'est dans une société en crise comme celle que nous vivons, c'est ce que je signalais tout à l'heure, eh bien, c'est que l'individualisation de plus en plus forcenée des citoyens fait qu'ils pensent de plus en plus qu'ils n'ont que des droits et pas de devoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour sur la société. Je pense que ce lien entre l'individu et le collectif est justement réglé par ce rapport entre droit et devoir.
Mais, disons enfin, écoutez, Gauss.
Oui, la société d'aujourd'hui, ce que tu dis de la société d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais moi, ma vision, elle est un peu sujettiste. Et effectivement, force est de constater que dans la même période que vient de parler Mabuse, à partir de cela, on a inversé la règle du jeu, comme je le disais. Normalement, devoir est la contrepartie de recevoir. Et là, effectivement, la société, et notamment le monde de l'entreprise, pose le problème complètement à l'envers. On te dit, recevoir, hein, mais tu as des devoirs. Et bien, à partir de ce moment-là, la liste des devoirs, elle s'allonge tous les jours, en nombre d'heures supplémentaires, en pression, en rentabilité, compétitivité, diminution de salaire, acceptation, limitation des droits, etc. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, cet équilibre, il est parfois rompu. Et là, je rejoins
Jekyll,
l'autre docteur Jekyll, où justement, le devoir, il est ailleurs. Et il est, comme on le dit souvent, dans la révolte. Voilà. Il est dans la révolte. Et...
Ah, moi, je voudrais revenir sur ce que Mabuse disait, où il faisait cette association entre devoir, du moins, et puis morale. Je parlais même de règles et tout. Et là, je suis 100% d'accord. Il manquait un mot, à mon avis. Parce que tout ça, en droit, ça s'appelle même le droit normatif. Oui. Autrement dit, c'est la norme. Or, justement, à ce propos-là, je me revendique anormal.
Ah oui, la normalité.
Hors de la norme. Oui. Je refuse cette norme-là, ce droit-là.
Maintenant, le devoir, il est évolutif. Hein, parce que les lois, heureusement, les règles du jeu sont en perpétuelle évolution.
Oui, mais
le bon ou dans le mauvais sens.
Mais qui sont ces trous du cul qui se permettent de définir le droit, c'est-à-dire la loi, pour moi ? Des espèces de mecs à Paris, au Palais Bourbon, des députés élus par je ne sais qui, je ne sais quel branleur qui n'y connaît rien, on appelle ça les citoyens, les électeurs, et puis qui après vont définir le droit et vont me dire ce que j'ai le droit
devoir.
De faire, pas
le
droit.
Ce que docteur, vous oubliez, c'est que dès qu'il y a deux individus, il y a une loi qui s'installe. Alors qu'elle soit écrite dans des tables constitutionnelles ou qu'elle soit de fait, elle existe. On appelle ça la loi du plus fort. On appelle ça ce qu'on voudra. Mmh. La loi de la jungle, tout ce que tu veux. Mais la loi existe. Dans les westerns, c'était celui qui tirait le plus vite. Qui, effectivement, était le représentant de la loi. Bon. Donc, à partir du moment où on est plusieurs, alors maintenant, si tu veux être un ermite, à partir de ce moment-là, tu n'auras ni devoir, ni droit vis-à-vis des autres. Mais à partir de ce moment-là, nous ne parlons plus d'une société.
Non, mais moi, je vais aller dans le sens, encore une fois, de Mabuse, mais en poussant jusqu'au bout la question de la liberté individuelle, la liberté des autres s'arrête où commence la mienne.
Oui, bien sûr.
Moi, je voudrais, justement, c'est très intéressant de parler du mot liberté, parce qu'il est induit par ce thème. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de société qui explique ce que l'on peut faire. Le droit explique tout ce que l'on ne peut pas faire. Et la liberté, c'est l'espace qui existe entre tous les interdits. Et donc, ça me paraît un sujet effectivement intéressant par rapport aux droits et aux devoirs. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Dès qu'il y a deux individus, il y a organisation sociale, donc ça veut dire règles nécessaires, rapport de force, quel qu'il soit, hein, le renard libre dans le poulet libre, ou bien les codes juridiques, etc. Mais je pense que dès qu'il y a plusieurs personnes, il y a nécessairement organisation et donc nécessairement contrainte avec institutions de contrôle, qu'il s'agisse de la police, de la justice, de l'armée, de la prison, etc. Et surtout des institutions de socialisation qui apprennent ça, que sont l'école. Moi, c'est amusant parce que ce qui était dit tout à l'heure, je me souviens avoir lu un livre d'apprentissage de la lecture au début du XXe siècle où on expliquait qu'un bon ouvrier, c'était pas quelqu'un qui était qualifié, etc. C'était quelqu'un qui soulevait sa casquette quand il croisait le patron.
Ah, ça doit plaire à notre docteur House. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition du bon ouvrier ?
De l'école républicaine.
Moi, ce que j'aime pas sur ce qui a été dit, hein, c'est que la loi, logiquement, est censée libérer l'individu en prenant fait et cause, hein, pour le plus grand nombre ou pour les faibles. Je dis bien censée, parce que force est de constater qu'aujourd'hui, la loi, au contraire, est une arme, hein, au service des puissants.
Pourquoi aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui ou hier. Mais effectivement, la loi devrait, et je répète, être censée être le garant d'une liberté.
Et le peuple, on lui demande par devoir, là je me tourne vers mon docteur Jekyll, le peuple souvent lui dit, vous avez le devoir par exemple d'aller défendre votre patrie, d'aller faire la guerre.
Hein ? Ça c'était jadis. Oui. Jadis, parce que lors de la guerre de 14, par exemple, effectivement, oui, c'est ce qui s'est passé. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, à mon avis, il n'y a pas eu de guerre coloniale en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. Parce qu'avec la guerre d'Algérie, ça, on a pu dire au peuple, c'est-à-dire aux jeunes et tout, allez, faites votre devoir. Or, en 1984, 5, 6, 7, 8, en Nouvelle-Calédonie, alors que le service militaire existait encore des mêmes conditions que pour la guerre d'Algérie, jamais un seul jeune Français aurait accepté de se battre et de mourir pour la Nouvelle-Calédonie.
Vous croyez pas, Jekyll, c'était le tournant, c'était la guerre du Vietnam, quand le Kennedy demande, allez, je vous demande de faire quelque chose pour votre... Je vous demande pas de ce que la patrie peut faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour la patrie. Et là, les jeunes Américains, ils n'y vont pas. C'est peut-être le tournant, non, d'après vous, enfin,
Oui, tout ce mouvement pacifique, qui est lié aussi, c'est toute la nouvelle génération, la génération du baby-boom, hein, qui a été élevée par des parents qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale, et des grands-parents qui avaient fait la Première Guerre mondiale, et qui leur inculquaient une éducation, une morale, des devoirs, etc., liés à ça. Et alors, à un moment, donc, cette génération, elle a dit, de quoi, vos devoirs, c'est quoi ? Pour faire la Première Guerre, pour faire la Deuxième Guerre mondiale, allez vous faire foutre.
Et on ne veut pas faire la Troisième.
Et ça donnait le pacifisme.
Par exemple, la libération, le dégagement du devoir populaire vis-à-vis du service militaire ou de la constitution de l'armée donne effectivement au pouvoir la possibilité d'avoir une armée, entre guillemets, de mercenaires, parce que de toute façon, ils sont rémunérés. Et donc, à partir d'une armée professionnelle, et donc à partir de ce moment, libre, effectivement, de se conduire comme elle a envie de se conduire, sans contrôle de la population.
Eh bien, si vous voulez bien, on va terminer cette petite émission sur ces réflexions de Jekyll, de Mabuse et de House, qui a conclu l'émission. Alors, la semaine prochaine, on va encore terminer une petite émission. Ça sera la dernière, figurez-vous. On arrivera à notre toute dernière émission. Alors, on a choisi comme thème « Nom de Dieu ». Alors, à samedi prochain, pour les toutes dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Point neuf, docteur.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Point neuf, docteur.
Alors, quoi de neuf, docteur ?